Merci beaucoup. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa grâce encore en ce jour. Et merci beaucoup pour la confiance qui m'est donnée. Merci beaucoup pour l'opportunité d'annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui un jour a changé ma vie. Mais je dois vous avouer que, bien que né dans une famille chrétienne, ayant participé à l'école du dimanche, je ne comprenais pas toujours tout à la Bible. Peut-être que vous êtes comme moi. Alors j'avais quand même un petit avantage par rapport à beaucoup, c'est que moi j'aime lire. Qui ici n'aime pas lire? Vous pouvez lever la main, on ne vous dénoncera pas, il n'y a pas de mal. On a le droit d'avouer. Les statistiques veulent que, normalement, c'est les femmes qui aiment davantage lire que les hommes. Ouais. Alors, on va essayer. Hein. Allez-y, levez la main bien haut pour voir qui aime lire. Oui, c'est vrai que c'est davantage féminin quand même. Hein. Alors, je voudrais vous donner ce matin un texte que je vous encourage à lire chez vous, qui va vous encourager le matin avant d'aller au travail, qui va vous faire du bien, vous stimuler, vous donner de la puissance, de l'énergie. C'est dans l'Ancien Testament, livre du Deutéronome. On a cité Moïse tout à l'heure. Eh bien, on reste dans les paroles de Moïse. Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Et je vais faire la lecture dans la version Louis II, 1910. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. » Le passage traite de la divination et de la pratique de la magie. Formidable à lire le matin avant d'aller au boulot, non ? Seigneur, je préfère que tu me donnes des promesses glorieuses, de bénédictions. Verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte, qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Amen. Je vous sens sceptique tout à coup là. Bon, on trouvera un autre texte pour le matin, mais pour ce matin, c'est celui-ci. Verset 12. « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. » On va relire juste ce verset, juste ce passage. « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Amen. Amen. Alors, un peu de contexte quand même pour ce passage, parce que, comme ça, c'est souvent difficile quand on lit la Bible. On lit un passage, mais il s'inscrit toujours dans un contexte. Il y a une histoire, au final. Il y a des personnages. Et comprendre comment le texte s'intègre dans l'histoire générale nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Et c'est ça qui est important. Comprendre la pensée de Dieu. Alors, Dieu a suscité un peuple. Il en avait fait la promesse à un homme, Abraham, et par ses fils, sa descendance, Isaac, Jacob, eh bien, Dieu va vraiment susciter tout un peuple, 12 tribus, qui vont se développer, où ça ? En Égypte. Au début, tout se passe bien, mais vous savez, les gouvernants, ça change, les politiques changent, et voyant que le peuple d'Israël se développe, les Égyptiens, la gouvernance égyptienne se dit, il y a un danger potentiel, on va en faire des esclaves, parce qu'ils se développent tellement qu'ils risqueraient de devenir un contre-pouvoir. Ils risqueraient d'usurper le pouvoir. Vous savez pourquoi ils se disent ça ? Parce qu'en Égypte, ça arrive très souvent. L'idée qu'on a un peu, une image d'Épinal avec les films, c'est que le pharaon a sa femme, ses enfants, puis son premier fils devient pharaon, et ainsi de suite. Ah, pas du tout. C'est de coup d'État en coup d'État. C'est pour ça qu'ils ont cette peur en eux. Ils ont peur que ce peuple fasse un coup d'État. Et alors, ils en font des esclaves. Et Dieu intervient, délivre son peuple par l'intermédiaire du ministère de Moïse. Vous vous rappelez, hein, l'épisode de la mer Rouge. Donc, Dieu va frapper l'Égypte avec 10 plaies extraordinaires, puissantes. Pharaon va lâcher prise. Le peuple va partir aux portes de la mer Rouge. Pharaon se dit, non, je ne peux pas laisser partir toute cette main-d'œuvre. Et rempli de colère, de haine, il est vraiment animé par quelque chose de malsain. Il se dit, je vais réunir l'armée et je vais tous les exterminer. On va régler ça une fois pour toutes dans le désert. Et là, le peuple ne peut pas s'enfuir, puisque d'un côté, il y a la mer Rouge, de l'autre, il y a l'armée d'Égypte, la plus puissante du monde, qui arrive. Et ils ne viennent pas négocier. Ils viennent exterminer tout un peuple. Et ça se faisait beaucoup à cette époque. De nombreuses tribus, de nombreux peuples de l'Ancien Testament ont disparu dans des événements similaires. Mais Dieu est avec son peuple. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va ouvrir la mer Rouge. Le peuple va passer à pied sec, Le texte est extraordinaire, hein, je vous invite à le lire. Et alors que le peuple sort de la mer Rouge, que l'armée égyptienne entre, cette fois-ci les eaux se referment et l'armée est détruite. En une nuit, en une journée, tout est terminé. Dieu a réglé tous les problèmes en un coup. Et ça, on le voit dans le ministère de Jésus. Si vous lisez surtout l'évangile selon Marc, est marqué aussitôt, tout à coup. Jésus va faire un miracle, Jésus va intervenir, donner une puissance. On n'avait qu'à toucher le bord du vêtement de Jésus et on pouvait être instantanément guéri. C'était complet, c'était pas, écoute, je te fais un peu de bien aujourd'hui, un petit peu mardi, un petit peu jeudi, et puis on se revoit dans 10 ans, on verra si ça va un peu mieux. Ça, c'est pas du tout la manière de faire de Dieu. Puisqu'un miracle, ça porte bien son nom, c'est irréfutable. C'est irréfutable, c'est irrévocable. Dieu intervient et en intervenant, il manifeste qui il est. Il manifeste son amour pour son peuple, sa puissance à l'égard des ennemis et des circonstances. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'évangile que nous avons reçu. Et alors que le peuple est maintenant sauvé de l'Égypte, Dieu lui dit, j'ai une terre à te donner, là où coule le lait et le miel. Tu vas pouvoir t'installer. C'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Cet homme qui se disait, mais ça n'arrivera jamais ce que tu m'as dit, Seigneur. Ça n'arrivera jamais. Dieu lui dit, bah, lève les yeux, compte les étoiles. Ta descendance sera multipliée, innombrable. On ne pourra jamais la compter. Et Abraham, lui, bah, toujours pas d'enfant. Et Dieu lui dit, je suis ton bouclier, je te protège, je suis avec toi. Et cette terre, c'est pour ton peuple. Et Dieu l'a accompli. C'est long quand Dieu parle des fois, non ? Il dit quelque chose, il vous montre quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et merci Seigneur, il ne nous montre pas toujours le chemin pour y arriver. Et là où on se dit, Seigneur, c'est flou, Seigneur, je ne vois pas la route. Du coup, ça me fait douter de ta présence et de ton amour pour moi. Non, non. Parce que si tu vois tout le chemin d'un coup, tu vas te décourager. C'est comme si dans un petit club de sport, on dit à un gamin, tu seras champion olympique. Alors lui, il est galvanisé, il est content, hein. Est-ce que ça va arriver le lendemain ? Non. Il va falloir beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, et alors, il pourra devenir champion. Dieu n'est pas celui qui mène la carotte et le bâton. Tu n'es pas un âne pour Dieu. Tu es son fils, sa fille, il t'aime. Sois vraiment convaincu de cela. Et quand Dieu te montre quelque chose, ce n'est pas cruel de sa part de ne pas te montrer le chemin pour y arriver. Ce n'est pas cruel de sa part, au contraire. C'est un père qui prend soin de toi et qui met sur ton dos uniquement ce que tu arrives à porter. Donc à chaque fois que l'ennemi arrive et te dit « c'est trop lourd », non, 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 c'est pas trop lourd. Même quand la tentation arrive, la Bible dit que les tentations iront jamais au-delà de nos forces. Quand Dieu met une charge, un poids sur tes épaules, c'est les ressources pour arriver au but qu'il t'a fixé. Amen. C'est les ressources que Dieu t'a données. Et là, Israël est donc aux portes de la terre promise, et par l'intermédiaire de Moïse, Dieu explique au peuple ben comment va falloir vivre maintenant, parce que vous avez vécu en tant qu'esclave, puis vous avez été nomade dans le désert, et maintenant vous allez vous établir dans ce que j'ai prévu pour vous. C'est 3 modes de vie différents à chaque fois. Et ça, c'est difficile pour l'être humain, parce que s'adapter, ça coûte toujours. Il faut mourir à une manière de faire pour renaître à une autre. C'est pas évident, hein. C'est pas facile. Pourtant, c'est pour de bonnes choses. Mais il faut que tu gardes dans ton cœur que Dieu te demande de t'adapter. Et il faut s'adapter en permanence. Je le dis souvent quand je discute avec des chrétiens qui sont chrétiens depuis pas mal d'années, quand on compare les églises d'aujourd'hui à celles d'autrefois, ça n'a plus rien à voir. La même Bible, le même évangile, mais pas la même manière de vivre l'évangile. Mais si on remonte plus loin dans le temps, c'est pareil, hein. Et ça nous demande toujours cet effort d'adaptation. Pas de modifier ce que nous avons reçu. L'évangile, ça ne bouge pas. Mais la manière de vivre l'évangile évolue tout le temps. Regardez, rien que pour cette église, les conditions administratives, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Il faut toujours s'adapter. Toujours être dans cet effort continuel d'intelligence. C'est pour ça que Dieu nous pousse à rechercher l'intelligence, à demander à Dieu la sagesse. Parce qu'on en a besoin pour toujours réussir à vivre le message de manière pertinente. C'est capital. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne t'adaptes pas. C'est comme si marié, tu veux vivre comme un célibataire. Est-ce que c'est possible? Merci, mesdames, de ne pas avoir crié trop fort. Amen. C'est gentil pour tous les hommes dans la pièce. Et là, Dieu donne plein de, on pourrait dire des règles, mais c'est plus que ça. C'est que Dieu veut imprimer une nouvelle mentalité. Vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus errants, des nomades. Maintenant, vous êtes un peuple qui a ses frontières. Vous êtes une nation désormais. Et dans tout ce que Dieu va transmettre à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, il y a le texte qu'on a lu. Alors c'est facile, on pourrait facilement juger les peuples de l'Ancien Testament. Hein. Oui, c'est des peuples idolâtres, ils pratiquent la magie, ils pratiquent même les sacrifices d'enfants. Vous voyez, j'ai attendu que les enfants soient partis pour en parler un peu, hein, je ne vais pas donner de détails. Mais on pourrait dire, oui, c'est les choses d'avant, c'est les choses d'autrefois. Est-ce qu'aujourd'hui encore ça se pratique? Pas les sacrifices d'enfants, on ne va pas aller aussi loin, mais est-ce qu'il y a encore un attrait pour la sorcellerie, pour la magie, pour l'ésotérisme? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Alors moi je me dis, au fond de moi, non, non, non. Pas parce que je suis dans une église, je suis chrétien, dans mes fréquentations, il n'y a personne qui touche à tout ça. Donc on a tendance parfois à croire que c'est un peu loin tout ça. Alors quelques chiffres quand même. Hein. Vous êtes déjà allé dans une librairie récemment? Ouais. Il y a toujours dans les grandes librairies un rayon ésotérique. Alors j'ai quelques chiffres. Hein. À votre avis, quelle est la tranche d'âge qui a le plus d'appétence pour la littérature ésotérique? Les livres de magie et compagnie. Quelle est la tranche d'âge, selon vous, la plus intéressée par ce thème? Ouais, les 25-30 ans. Ouais. C'est plus les hommes ou plus les femmes? Bah, comme elles aiment plus lire. Ouais. Un sondage IFOP. Quel pourcentage des jeunes croient à la sorcellerie, à la magie? 70% en France. Parfois, en tant que chrétien, et c'est une bonne chose en quelque sorte, on est dans une bulle protectrice. C'est que Dieu nous préserve de vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On s'en rend compte qu'on va témoigner à quelqu'un qui nous parle de sa vie. Il traverse ça, il traverse ça, il traverse ça, et on se dit, mais merci Seigneur pour la nouvelle vie que tu m'as donnée. Tu m'épargnes tellement de choses. Les gens sont frappés. Moi, j'ai des problèmes, mais quand j'écoute ceux qui vivent sans Dieu, je me dis, mais en fait, moi, je n'ai pas de problème dans la vie. Mais je pourrais tout perdre, que ça va quand même bien. Je suis large. Les gens ont des vies catastrophiques quand ils vivent sans Dieu. Et Dieu nous dit à nous, parce que la parole de Dieu demeure, que toutes ces choses, c'est le péché. C'est péché. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit déjà. Et ça, il faut que ce soit comme un principe directeur dans ta vie. Qu'importe ce que les autres peuvent dire, qu'importe même ce que tu penses, ce que ton cœur te dit à toi-même, ce que Dieu dit est la vérité. Il est le véritable. Il s'est révélé. Et même quand ton cœur t'accuse, la Bible déclare que Dieu est plus grand que ton cœur et qu'il témoigne à ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Alors même quand le diable vient mettre une culpabilité pour couvrir ton cœur, Dieu dit « moi je suis plus puissant pour enlever ça ». Donc tu dois t'appuyer non pas sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, mais en premier lieu sur la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure. Elle demeure toujours. C'est un péché parce que Dieu l'a dit. Mais pourquoi c'est un péché? Pourquoi Dieu l'interdit? Est-ce que ce serait parce que Dieu aurait peur qu'on découvre des choses et qu'on peut devenir des complotistes chrétiens parfois? J'en ai croisé. Hein, remplis de tout un tas de théories fumeuses, remplis de superstitions. Ça, ça porte malheur. Ça, faut pas le faire comme ça. Ah là là, si jamais on a déplacé le piano d'un millimètre, on ne sait pas si on va avoir l'onction ce matin. Non, 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 faut arrêter. Hein. Faut arrêter avec tout ça. Hein. Que si j'ai pas la chaise sur laquelle je suis tous les dimanches, Dieu pourra pas me parler. Ça, c'est de la superstition. Est-ce que tu as des superstitions que tu n'oses pas t'avouer à toi-même? Des choses où tu te dis, ça porte malheur, ça porte bonheur. Non, j'en ai pas. Non, non. Mais il y a des choses, je me dis, si je jeûne pas, je ne serai pas assez méritant pour les avoir. Ça, c'est de la superstition. Ça, tu détournes le sens du jeûne et de la prière. Tu ne peux pas chercher à faire des sacrifices pour mériter. Ce n'est pas parce que tu contribues financièrement à l'œuvre de Dieu qu'il y a un calcul à faire, du coup Dieu va me donner plus 50% d'ici 6 mois, dans ce cas-là je peux donner telle somme, c'est de la superstition ça. Dieu dit, donne librement, selon ton cœur et avec joie. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et Dieu a dit, donne et moi je te bénirai. Je te bénirai, dit le Seigneur. C'est pour ça qu'on donne avec joie, parce qu'on le fait avec reconnaissance. On ne le fait pas parce que si je donne 100 euros, j'aurai 1000 euros derrière. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est tordre le sens des Écritures. Et tu découvriras dans ta vie chrétienne, en explorant la parole de Dieu, à quel point Dieu peut te bénir à travers la vie financière, la vie familiale, la vie professionnelle, tous ces aspects. Mais d'où va venir l'équilibre? D'où va venir la force qui soutient ces principes qui animent ta vie? De la parole de Dieu. Il faut aimer la Bible, plus que jamais. Je sais que je le dis tout le temps, beaucoup, partout. En général, quand on m'invite à manger, qu'on a une discussion avec des amis, si par malheur ils m'ont posé une question sur la Bible, c'est fichu pour eux. C'est pour ça que je me suis couché très tard hier soir, parce qu'on a commencé à évoquer la Bible. Mais en quoi toutes ces pratiques de magie, de sorcellerie, elles éloignent de Dieu au final? Parce que dans la vie, il n'y a que deux choses, hein. Ce qui t'approche de Dieu, ce qui te rapproche de Dieu et ce qui t'éloigne de Dieu. Il n'y a jamais de position neutre et statique. Ça n'existe pas dans la foi. Soit tu avances, peut-être même très lentement, hein, mais tu avances. Soit tu recules. Mais comme ce recul, il est très lent, toi, tu as l'impression que tu es statique. Non, ça va en fin de compte. Et au bout d'un mois, prier 10 minutes, ça te coûte tellement que tu n'oses même plus le faire. En quoi ces pratiques nous éloignent de Dieu? Eh bien, parce qu'elles sont contraires au principe même de la foi. En quoi l'ésotérisme, la magie, et quelle que soit la couleur qu'on lui donne, hein? Non, tout ça c'est pareil. Eh bien, ce sont des pratiques addictives. On commence et on en veut toujours plus. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner dans la foi des bien-aimés qui étaient sortis de tout ça, sortis du satanisme, sortis de l'ésotérie, des frères qui sont aujourd'hui des frères dans la foi solides, qui prêchent l'évangile. J'en connais un d'ailleurs, il est missionnaire au Maroc maintenant, gloire à Dieu. Hein. Mais il m'expliquait, et comme tant d'autres, on retrouve toujours ça dans le témoignage, c'est que tu mets un doigt dans l'engrenage et tout ton corps est entraîné. Tu veux tester ceci, tester cela, t'entends parler d'une nouvelle spiritualité, tu vas voir. Au début, ça commence, allez, je vais me renseigner sur Internet, je regarde une vidéo, je commence à lire un article, tiens, il y a un bouquin qui est intéressant à la librairie du coin, oh, et puis oh, on peut peut-être essayer, oh, puis c'est lié à du développement personnel, il y a des recettes de cuisine qui vont avec. Et toi, tu ne te rends pas compte, tu es en train de glisser jusqu'à un crocodile. Je ne sais plus qui a dit ça. Le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Hein. Et un jour, tu te réveilles et tu es pris jusqu'au cou dans des choses qui sont venues assombrir ton âme. C'est des pratiques addictives. Quand tu commences, tu vas toujours plus loin. Ce sont des pratiques excluantes. Il y a toujours un côté élitiste à ces pratiques. Non, mais moi, j'ai la sensibilité. Moi, j'ai reçu un don par un membre de ma famille. Moi, je ceci, moi, je cela. Et donc, on est toujours dans un cercle plus restreint où on est les seuls à penser détenir la vérité. Alors que la foi, elle est inverse. La foi, elle vient amener l'équilibre, elle vient t'amener l'ouverture sur les autres. La foi, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est pas regarde-le comme moins bon que toi. Parce que toi, tu aurais plus de savoir, plus d'expérience. Non. La Bible nous invite même à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ce sont des pratiques, et il faut le dire, hein, et ce n'est pas un jugement ce matin. Mais je suis fermement convaincu que tant qu'on n'annonce pas la vérité, on ne peut pas lutter contre le mensonge. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui, dans ma vie, ont dit la vérité, parce que c'est la vérité qui a franchi. Et il ne s'agit pas de prendre un bâton ou de faire avec la Bible un bâton et de frapper sur les gens en disant « tu fais ceci, c'est pas bien, tu fais cela, c'est mal ». Non, c'est de communiquer l'amour, mais l'amour va avec la vérité. Quel parent dirait à son enfant « tu veux jouer au ballon sur la route ? Tu sais que je t'aime, je t'en empêcherai pas ». Ce serait terrible. Bon, je pense que petit, certaines nuits, mes parents ont peut-être eu envie l'idée de m'embêter un peu parce que je les empêchais de dormir. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est où? L'amour de Dieu, il est « je ne donne pas accès au diable », dit la Bible. Alors, je sais qu'aujourd'hui, et surtout qu'on commence à taper des trucs sur YouTube, on peut tomber sur tout un tas d'enseignements. Et mon propos ce matin n'est pas de commencer à sortir une vidéo et dire « là, il a tort, là, il a raison », et ainsi de suite. Non, non. Mais d'avoir une pensée saine. Et bien aimé, une pensée saine, on peut tous l'avoir. Déjà, il suffit de la demander à Dieu. Et Dieu donne. Moi, quand je prie, j'espère un exaucement de mes prières. Vous êtes comme moi, hein? Donc, quand je demande à Dieu, ben, je m'attends à ce qu'il donne. Alors ensuite, Dieu choisit quand, choisit comment. Il est souverain. Mais quand on s'approche de Dieu, « Seigneur, donne-moi une raison saine, une pensée saine. Ta doctrine est saine, déclare la Bible. Seigneur, j'ai besoin de sainteté. » Alors quand une pratique commence à rentrer dans ta vie et tu te rends compte que tu ne peux pas en parler aux autres, ça devient gênant là. Parce que moi, par exemple, si je prie, je n'ai pas honte de le faire devant mes enfants. Mais non, il ne faut pas que les autres le sachent. Là, ce n'est pas bon. Ça, c'est l'ombre. Et Dieu veut t'amener à la lumière. Ne donne pas accès au diable parce que dès que tu donnes au diable un pouvoir sur ta vie, il fait de toi un instrument à son service. Ne donne pas accès au diable, dit le Nouveau Testament. Sois cohérent dans ta foi. Et surtout bien aimé. Je sais que je pourrais être très long, tous les prédicateurs pourraient être très longs sur le sujet, mais sois cohérent et surtout ne mélange pas ta foi avec les choses du monde. Ne fais pas de mélange des choses soi-disant spirituelles, de ces nouvelles spiritualités avec la foi. Ça ne se mélange pas. La foi, ça vient de Dieu. C'est un don gratuit, un cadeau de Dieu. Et Dieu t'appelle à en découvrir toutes les richesses et à la vivre au quotidien. En aucun cas, Dieu te dit, bah, écoute, je t'ai donné que 90%, débrouille-toi pour les 10% qui restent. Va piocher dans les autres croyances, etc. Non, 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 non. Ne mélange rien à ta foi. Ne mélange rien à ta foi. Est-ce que tu peux entendre ça ce matin? Amen. Amen. Alors, j'ai été un peu négatif peut-être, mais je voudrais quand même vous encourager ce matin. Et que vous puissiez repartir avec, non pas, tout d'un coup, j'ai peur de tous ceux qui sont dehors, peut-être c'est des sorciers ou... c'est vrai, mon frère, si tu cherches une femme, vaut mieux chercher dans l'église, hein, dehors, il y a peut-être beaucoup de sorcières, on ne sait pas. Mais écoute ceci. Le texte a dit quoi? Et on a lu le verset à deux reprises, je le reprends. C'était au verset 12, il me semble. Verset 13, pardon. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Moi, j'aime bien comparer les autres traductions. Il y en a un qui dit ceci, tu seras parfait. Qui est parfait ici ce matin? Même moi, j'ose pas lever la main, hein, parce que... On peut trouver chez nous des imperfections, hein. Alors, on va voir dans une autre traduction, il est dit, sois complet. Ah, il y a quand même un sens intéressant là. C'est que la perfection que Dieu attend de nous, dans un sens courant, c'est impossible. Et ce n'est d'ailleurs pas la pensée de Dieu. Ce serait quelqu'un qui fait toujours tout parfait. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça ressemblerait. Hein. Non, c'est quelqu'un qui est complet pour Dieu. Et ça, ça m'intéresse parce que ça, c'est possible. Être parfait dans la pensée biblique, c'est être complet. C'est-à-dire que tous les aspects de ta vie, c'est Dieu qui règne dessus. Dieu règne sur ton cœur, sur ton corps, Dieu règne sur tes pensées, Dieu règne sur ta carrière, ta famille, Dieu règne sur tes finances, Dieu règne sur tes vacances, Dieu règne sur absolument tout dans ta vie. Dieu règne absolument partout. C'est Paul qui dit à Timothée, rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Parce que dans cette optique, on pourrait devenir comme des pharisiens à un moment donné. Se mettre tout un tas de règles très difficiles à vivre parce qu'on veut être parfait. Je ne veux pas dire du mal de mes mentors, de ceux qui m'ont enseigné la foi et le ministère, mais ils avaient une vieille habitude qui me faisait toujours rire. Ils me disaient, écoute, pour prêcher, il te faut une grosse Bible. Quand tu viens sur l'estrade, il te faut une grosse Bible quand tu prêches. Moi, je dis, bah oui, mais c'est la même chose dans ma petite Bible. Non, non, et puis il faut que tu la tiennes en main quand tu prêches. Là, vraiment, tu es un prédicateur, quoi. Ah, bah, les anciens, ils avaient leurs idées. Hein. Moi, je dis OK. Je prends ma grosse Bible. Le problème, c'est que c'est lourd sur une main, une grosse Bible. Et à un moment donné, elle tombe. dans la salle, je vous promets, frères et sœurs, c'est comme si j'avais commis un sacrilège. Parce qu'en plus, je sais pas vous, mais enfin moi j'avais cette habitude avant, je le fais plus parce qu'à cause de ce problème, je mettais des photos, des petits marque-pages, je mettais plein de trucs dans ma Bible. Il y avait un stylo coincé quelque part. Et au moment où elle est tombée, c'était le bazar par terre. Hein. Donc je me penche pour ramasser, je me cogne au pupitre, bruit de micro, je commence à ramasser ma Bible, elle est pliée dans tous les sens. J'ai plié, j'ai fait tomber par terre une Bible et les pages sont pliées. Dans l'auditoire, c'était horrible. Bon, les frères et sœurs, ils m'aimaient quand même. Hein. Ils ont bien vu que je n'ai pas jeté la Bible par terre, mais vous voyez l'approche qu'on peut avoir sur les choses. On peut se donner l'apparence de la piété, dit la Bible. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors moi, je ne peux pas voir ton cœur. Enfin, presque. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah. C'est-à-dire que c'est invisible, mais ça devient visible. Il y a quelque chose qui émane de toi, et à travers quoi notamment ? À travers ton langage, à travers tes paroles. Et c'est pour ça qu'il faut que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous, déclarent les Écritures. Qu'on se nourrisse de la parole de Dieu pour qu'elle vienne changer ce qu'il y a en nous. Qu'elle vienne transformer ce qu'il y a en nous. Et nous, nous sommes appelés simplement à faire des choix. C'est des arbitrages au quotidien à la fois. Est-ce que ça oui, est-ce que ça non? Et en progressant, on développe ce qu'on appelle du discernement. Et on commence à comprendre. Avant, je faisais ça, c'était dans le but de plaire à Dieu, Dieu m'en veut pas, mais c'était bancal quand même. C'est trop l'apparence. Il faut que ça vienne travailler dans le cœur. Parce que je porte une chemise bleue ou rouge, est-ce que ça a une importance quelconque pour Dieu ? Ouais. Par contre, est-ce que je suis capable de maîtriser mes paroles et ma colère ? Est-ce que ça ne plaît pas davantage à Dieu ? Ouais. Je voudrais lire ce texte, Colossiens chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par oh là là, c'est dur aujourd'hui. Hein. Faut que j'arrête de parler de la Bible jusqu'à 2h du matin. Incorruption de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et je me fais comme l'écho de ce qu'a déclaré l'apôtre. C'est que Dieu a enlevé tout accès du diable dans ma vie quand je l'ai accepté. Il a effacé tous mes péchés. Il a purifié mon âme. À l'intérieur, je suis propre. C'est des fleuves d'eau vive qui coulent de mon sein. C'est plus l'eau des égouts, l'eau du péché. Le Seigneur m'a purifié. Alors oui, c'est vrai. Je ne suis pas parfait au sens humain, mais je veux être parfait au sens biblique, complet. Que Dieu ait un droit de regard et un droit de veto sur absolument tout dans mon existence, de façon à pouvoir lui plaire. Parce que si Dieu condamne la magie et la sorcellerie, c'est parce que c'est contraire à la foi. Nous vivons selon nous un autre principe, le juste vivra par la foi. Et il nous faut être en harmonie avec Dieu. Alors je voudrais utiliser une illustration. Tu veux bien venir, s'il te plaît, Sandy ? Alors, j'aurais pu le faire, mais elle est meilleure pianiste que moi. Est-ce que tu pourrais me donner un accord de Do majeur, s'il te plaît ? Parfait. Pour un accord de Do, il vous faut 3 notes. Do, Mi, Sol. On fait un petit cours de solfège ce matin, ça marche ? Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a de la musique dans la Bible ? J'espère un jour avoir l'occasion de vous parler de cela. Pas juste des textes, mais vraiment une grande musicalité. 1 Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est... Pour avoir un accord de Do majeur, il vous faut une dominante. Dans l'accord de Do, c'est facile, c'est Do. Donc un accord de Do majeur, quand j'ai ces 3 choses qui se développent dans ma vie, et une musicalité qui plaît à Dieu. Voilà la véritable louange. Mais maintenant, je suis peut-être... J'ai pas donné à Dieu, j'ai pas été complet avec lui, je n'ai pas donné un aspect de ma vie. Donc il y a une fausse note qui se glisse. Est-ce que c'est toujours agréable ? Non. Mais allez, sur toute une partition, vous faites une erreur, ça se cache, ça ne se voit pas. Désolé le groupe de louanges, je viens d'avouer un de nos mystères. On revient sur un accord de Do majeur. Ces trois choses demeurent en moi. Mais si on change la dominante, on met carrément autre chose. C'est plus Do. Ouais. On sent une différence, non hein? Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on attendait. C'est pas ce qui est écrit sur la partition de Dieu pour ta vie. Et toi, tu marches peut-être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses sur lesquelles Dieu règne dans ta vie, il y a d'autres pas trop. Mais ça s'entend pas trop. Tu vois où je veux en venir? Ça s'entend pas trop. C'est pas que tu veux le cacher, mais combien de fois, à travers des chants, des prédications, des témoignages, de la littérature chrétienne, à travers des expériences de la vie, Dieu t'amène toujours à faire face avec ce qui est dissonant avec lui. Parce que ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est ce bel accord Do majeur. Parce que si tous les autres jouent cet accord, mais que toi t'en joues un autre qui est complètement différent, là ça va s'entendre. Tu vas te sentir mal à l'aise. Tu es source d'un malaise. Et de ce malaise, vous savez ce qui se passe quand un musicien commence à se tromper? Il s'en mêle les pinceaux, il panique, il joue n'importe quoi. Bon, moi, vous le verrez, quand je joue de la basse, si à un moment donné, je m'arrête complet, j'attends une mesure et je reprends, c'est que c'était plus... Ben, Dieu t'invite à faire une pause. Reviens à la partition. Retrouve le bon accord avec Dieu, vibre avec lui. Parce que tant que tu vas vibrer avec les choses de ce monde et les choses du diable, tu ne peux plus être en phase avec Dieu. Tu ne peux plus être en phase avec lui. Tu ne peux plus vibrer avec lui. Ce qui fait que quand tu pries, c'est pénible. Quand tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Quand tu veux servir Dieu, les choses ne se mettent pas en place. Dieu veut te ramener à sa partition à lui pour ta vie. Il a écrit quelque chose pour toi. Alors je voudrais t'inviter ce matin, merci beaucoup. Vous pourrez juste se recueillir un instant, avoir juste un très court moment d'introspection, de silence intérieur. Et dire, Seigneur, il y a le péché dans le monde, toi tu m'as amené à toi. Je ne veux pas me laisser piéger par les pratiques de la magie parce que le diable cherche toujours à déguiser ça en quelque chose de positif. Mais la Bible est extrêmement claire, ça t'éloignera de Dieu et ça te tuera. Ça causera ta perte, toutes ces choses qui sont magie, sorcellerie et compagnie. Délaisse tout ça. Ce n'est pas parce que c'est présenté de manière positive sur les réseaux sociaux que ça plaît à Dieu. Ce n'est pas parce que plein de gens disent que ça leur a fait du bien que c'est la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et tout ce qui ne vient pas élever Jésus dans ta vie, c'est une forme de superstition qui s'installe. Tout ce qui ne vient pas mettre Jésus à l'honneur dans ton quotidien, ce sont des superstitions qui s'installent. Ce n'est plus la vraie foi. C'est plus la vraie foi. Et Dieu te dit, viens vibrer à ma musique. Viens être dans cet accord que je t'ai donné. Et qu'abonde en toi la foi, l'espérance et surtout l'amour. Alors pendant qu'on est dans ce court moment de prière, je ne vais pas faire d'appel, mais je voudrais que tu puisses repartir de ce culte eh bien, avec une question que je t'invite à poser à Dieu quand tu seras chez toi dans la semaine, quand tu prendras une pause, quand tu vas enfin comprendre que Dieu te dit « pose-toi, il faut qu'on parle ». Mais ce n'est pas pour avoir une dispute avec Dieu, c'est pour avoir un échange avec le Père. Et cette question, c'est « Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie ne sonne pas juste ? Qu'est-ce qui dans ma vie n'est plus en accord, en harmonie avec ta volonté pour ma vie ?» Parce qu'on peut copier les uns et les autres. Dieu a écrit une partition avec ton nom. Seigneur, je veux te rendre grâce, te bénir, te louer, parce que tu es juste, tu es fidèle et tu es bon envers chacun d'entre nous. Seigneur, il n'y a pas un grand ou un petit, nous sommes tous ton peuple, tous tes enfants, et nous avons tous un projet de vie avec toi. Seigneur, tant de choses dans ce monde sont sales et veulent nous éloigner de ta lumière, de ta musique. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse contribuer à ce concert de louanges et t'apporter sa louange, sa propre louange, au nom de Jésus. Amen.